VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 17h30 en temps universel. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, John Linden à la présentation de cette édition du mardi 22 août 2023. Pour commencer, le sommaire. Le Niger suspendu des institutions de l'Union africaine qui affiche une position réservée sur une éventuelle intervention militaire. Le patron de Wagner dit être en Afrique pour travailler à la grandeur de la Russie. Des milliers de Zimbabwéens sont attendus aux urnes demain pour un scrutin qui s'annonce tendu. Ouverture en Afrique du Sud du sommet des BRICS, ce groupe de pays émergents veut étendre son influence dans le monde. En sport, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango décroche son premier titre mondial au triple saut. Bagassi Koura donnera les détails et Alexandrine Oloyon sera là pour l'économie. Mais pour commencer, le sommaire. Le journal donc, l'Union africaine suspend le Niger de toutes ses activités à la suite du coup d'état militaire et a demandé à ses membres d'éviter toute action susceptible de légitimer la junte. L'organisation panafricaine a réitéré ses appels à la libération immédiate du président élu Mohamed Bazoum. On fait le point avec Alexandrine Oloyon.
Dans un communiqué, l'Union africaine dit prendre note de la décision de la CEDEAO d'activer une force en attente et a demandé à la Commission d'évaluer les implications économiques, sociales et sécuritaires du déploiement d'une telle force. Le Conseil de paix et de sécurité a également indiqué qu'il a demandé une liste des membres de la junte et de leurs partisans en vue de sanctions ciblées. La CEDEAO tente de négocier avec la junte, mais se dit prête à envoyer des troupes pour rétablir l'ordre constitutionnel si les efforts diplomatiques échouent. Par ailleurs, 12 soldats nigériens ont été tués dimanche dans la région de Tillaberi, dans le sud-ouest du Niger. Une opération anti-djihadiste de la garde nationale a été la cible d'une embuscade près du village de Dukusaraou, a indiqué Télé-Sahel, qui affirme que la riposte a permis d'infliger une lourde perte à l'ennemi, sans indiquer le nombre d'assaillants tués.
L'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, a affirmé ce mardi que redevenir président n'était plus une obsession pour lui. Si mes camarades estiment qu'il n'y a pas mieux que moi pour les échéances à venir, alors on se mettra en route pour travailler, a-t-il ajouté. C'était lors d'une conférence de presse à Abidjan. Laurent Gbagbo est radié des listes électorales et ne pourra pas voter aux élections locales du 2 septembre. Au Mali, des djihadistes imposent depuis plusieurs jours un blocus à Tombouctou où les prix des produits ont commencé à augmenter. Cet embargo fait suite à des messages diffusés début août sur les réseaux sociaux et attribués à un commandant local du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les camions qui viennent d'Algérie, de Mauritanie et de toute autre provenance doivent cesser toute progression au risque d'être ciblés et incendiés. Les Zimbabwéens sont attendus aux urnes demain pour élire leur nouveau président et les députés. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, fera face à l'opposant Nelson Chamisa. Les précisions avec Dili Diko.
Pour l'élection présidentielle, Emmerson Mnangagwa abrigue un second mandat et va affronter demain Nelson Chamisa, avocat, pasteur et leader de la Coalition des citoyens pour le changement, le plus grand parti d'opposition. Chamisa, âgé de 45 ans, est appelé Mukomana, ou le jeune homme. Ce surnom reflète la différence d'âge entre lui et son adversaire, le président sortant Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile. Il est devenu le deuxième président du pays après avoir évincé le dirigeant de longue date, Robert Mugabe, par un coup d'État en 2017. Aujourd'hui âgé de 80 ans, il ne montre aucun signe de vouloir prendre sa retraite. Le président est élu à la majorité absolue. Si aucun candidat n'obtient la majorité, un second tour est organisé. Les Zimbabwéens doivent aussi élire le nouveau parlement dans un contexte tendu. La campagne a été marquée par des meetings interdits et des arrestations d'opposants. L'opposition espère que le mécontentement populaire va se traduire en une forte participation ou une victoire.
Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a affirmé dans une vidéo se trouver en Afrique. Il a dit travailler à la grandeur de la Russie et appeler des volontaires à le rejoindre. Claire Morin-Gibourg.
Evgeny Prigojine est apparu lundi soir dans une vidéo devant un paysage désertique, habillé d'une tenue de camouflage et montrant un fusil d'assaut. Il déclare que le groupe Wagner effectue une mission de reconnaissance pour rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Il se présente comme le cauchemar des djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda et a appelé les volontaires à le rejoindre pour remplir les tâches promises. Le patron de Wagner n'a pas dit dans quel pays il se trouve, évoquant juste une température de 50 degrés. Le groupe Wagner est présent au Mali et en Centrafrique. Monsieur Prigojine s'était déjà exprimé depuis sa rébellion avortée. Dans un message audio fin juillet, il se félicitait du coup d'État au Niger et fustigeait les anciens colonisateurs en promettant que le groupe Wagner est en mesure d'instaurer l'ordre et de détruire les terroristes.
Maxime Mokom, 44 ans, ex-chef de milice, a nié mardi toute implication dans un bain de sang en affirmant au juge de la Cour pénale internationale qu'il était dévoué à la recherche de la paix. Maxime Mokom fait face à 20 chefs d'accusation des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité pour des atrocités commises en 2013 et 2014 en Centrafrique où il était le chef des milices anti-Balaka. La marine marocaine a, elle, intercepté 190 migrants originaires d'Afrique subsaharienne à bord d'embarcations de fortune au sud du Maroc. Cette opération porte à au moins 518 le nombre des candidats à l'immigration irrégulière originaire d'Afrique subsaharienne ramenés sur les côtes marocaines depuis le 8 août.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture du 15e sommet des BRICS ce mardi en Afrique du Sud avec au programme l'élargissement à de nouveaux membres du bloc de pays émergents qui cherche à étendre son influence politique et économique mondiale. Nathalie Barge.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa accueille à Johannesburg ses homologues brésiliens Luiz Inácio Lula da Silva et chinois Xi Jinping. L'Inde est représentée par son premier ministre Narendra Modi et la Russie par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le président russe Vladimir Poutine participe en visioconférence. Les BRICS, qui produisent un quart de la richesse mondiale, cherchent à s'élargir. Une quarantaine de pays ont manifesté leur intérêt. La question de l'élargissement divise l'Inde et la Chine. Rappelons que Pékin est le premier partenaire commercial de Pretoria, M. Ramaphosa a rencontré le président chinois Xi Jinping avant la réunion générale.
J'ai eu une réunion fructueuse avec le président Ramaphosa. Nous avons échangé des vues sur le développement des relations bilatérales dans la nouvelle ère et des préoccupations communes sur les questions internationales et régionales et nous sommes parvenus à un consensus important.
Une cinquantaine de chefs d'État et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sont attendus au sommet des BRICS en Afrique du Sud.
Également dans l'actualité, Joe Biden va plaider pour muscler les capacités des financements du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ce sera lors du prochain sommet du G20 en Inde, a fait savoir mardi son conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan. Lors de cette rencontre, les 9 et 10 septembre, le président américain veut consacrer beaucoup de son énergie à la modernisation des banques multilatérales comme la Banque mondiale et le FMI. La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, va effectuer une visite en Chine du 27 au 30 août. Le déplacement de Madame Raimondo survient après ce en juillet de l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Donald Trump a confirmé lundi soir qu'il se rendrait jeudi à Atlanta, en Géorgie, pour comparaître devant le tribunal qui va le juger pour des tentatives présumées d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État. C'est le 4e dossier pénal pour l'ancien président qui brigue de nouveau la Maison-Blanche et reste le favori pour les primaires républicaines. les primaires républicaines. Donc, et puis les États-Unis ont approuvé lundi un contrat d'armement incluant la vente de 96 hélicoptères Apache à la Pologne, allié de Washington et soutien majeur de l'Ukraine. La vente, qui totalise 12 milliards de dollars, va améliorer la capacité de la Pologne à faire face actuellement aux menaces futures et actuelles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Alexandre Poloyon.
Les BRICS se retrouvent ce mardi à Johannesburg. Un des enjeux du 15e sommet des 5 économies émergentes est la possible expansion du bloc qui veut étendre son influence dans le monde. Une vingtaine de pays ont demandé à rejoindre le bloc. Les BRICS pèsent 23% du PIB mondial et représentent 42% de la population du globe. Pretoria, qui a planché sur les conditions d'entrée à observer, devrait soumettre une proposition aux pays membres lors du sommet. Un gisement de manganèse d'une possible importance mondiale a été découvert dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la société australienne Macgold Limited. La superficie de chacun des deux terrains forés jusqu'à 50 mètres de profondeur est d'environ 7 km de long et 1 km de large. L'une des prochaines étapes sera de mener une enquête géophysique pour évaluer la largeur et la profondeur du gisement. L'Éthiopie cherche à mobiliser 20 milliards de dollars pour la reconstruction des régions touchées par le conflit du Tigré. Le gouvernement a évalué les pertes économiques liées à la guerre civile qui a ravagé la région du Tigré pendant 2 ans à plus de 28 milliards de dollars. L'Éthiopie a officiellement demandé l'assistance du FMI pour financer la reconstruction de ses infrastructures et renforcer ses réserves de change.
C'est l'heure des sports et on reçoit Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Mondiaux d'athlétisme, le Burkinabé Zango sacré au triple saut.
Oui, le Burkinabé Hugo Fabrice Zango a décroché son premier titre mondial au triple saut avec une marque de 17,64 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme ce lundi à Budapest. Zango, médaillé de bronze olympique à Tokyo, a livré un concours de haut niveau avec 4 sauts à plus de 17,20. Il est le premier athlète de son pays sacré au championnat du monde. Il s'empare de la médaille d'or devant 2 Cubains, Lazaro Martinez, médaillé d'argent avec un triple bond mesuré à 17,41 mètres, et Christian Napoles, qui a réalisé un centimètre de moins, 17,40 mètres, son record. Zango a pris la première place en l'absence de la star de la discipline, le Portugais Christian Pichardo, et après la blessure du jeune prodige jamaïcain Jaydon Hibbert, victime d'un problème musculaire durant le concours.
Le Sud-Africain Jaco Pieper arbitrera le match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby.
Oui, et ce sera le 8 septembre au Stade de France à Saint-Denis, entre la France, le pays hôte et la Nouvelle-Zélande, comptant pour le groupe A. C'est ce qu'annonce le World Rugby. Jaco Pieper avait déjà arbitré le match d'ouverture du Mondial 2015 entre l'Angleterre et les Fidji à Twickenham, a précisé l'instance dirigeante du rugby mondial dans un communiqué, précisant par ailleurs les noms des arbitres désignés pour les 40 rencontres de la phase de poule.
Manchester City, Pep Guardiola opéré du dos et absent pour 2 matchs.
Oui, John, Guardiola souffrait depuis quelque temps de violentes douleurs au dos et s'est rendu à Barcelone pour se faire opérer, a indiqué le club mancunien dans un communiqué ajoutant que l'opération a été un succès. L'entraîneur de Manchester City manquera les 2 prochaines rencontres de son équipe. Le technicien espagnol de 52 ans qui restera à Barcelone pendant sa convalescence devrait manquer donc les 2 prochaines rencontres en Premier League de City à Sheffield United ce dimanche, puis contre Fulham le 2 septembre. Il sera remplacé par son assistant Juanma Lillo. Guardiola pourrait ainsi revenir après la prochaine trêve internationale pour le déplacement des champions d'Angleterre en titre à West Ham le 16 septembre.
Merci Bagassi.
Merci John.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden en votre compagnie, place au dossier du jour. Et on commence par le Niger. L'annonce d'une transition de 3 ans maximum faite par le chef de la junte militaire au Niger et rejetée par la CDAO suscite des réactions dans le pays. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
Toujours pas convaincus du renversement de leur régime, les partisans de Mohamed Bazoum rejettent, tout comme la CEDEAO, l'idée d'une transition évoquée par le général Abdrahmane Tchiani. Adamou Manzo, militant du PNDS Tareya.
Accepter une transition, même 2 mois, ça veut dire accepter le coup d'État. Et nous le rejetons, nous rejetons le coup d'État et nous rejetons toute proposition de transition. Personne ne peut accepter cette proposition de 3 ans. Et la CEDEAO, en rejetant cette proposition, a vu juste et a été conforme aux principes fondamentaux de l'organisation. Ce que nous souhaitons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel normal avec le président de la République, Mohamed Bazoum, libre de ses mouvements et rétabli dans ses fonctions de président de la République.
Militante d'une formation politique qui a soutenu Mohamed Bazoum, Madame Halima n'y voit pas d'inconvénient si telle est la volonté populaire.
Si le peuple nigérien lui fait confiance pour lui accorder 3 ans de transition ou au-delà, même nous qui sommes les politiciens, nous n'allons pas nous opposer. Parce que tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt suprême de notre nation.
Pour ces citoyens, l'étendue des chantiers mérite une période plus longue que ce que le général Abdrahmane Tchiani a annoncé.
C'est très peu. En tout cas, par rapport à ce que les gens-là ont fait, le PNDS et ses affidés ont fait, comme népotisme, détournement des deniers publics, la corruption qui a gangréné le Niger, parce que 3 ans, mois pour mois, c'est très peu pour redresser tout ça-là et aller aux élections. Si on peut aller au-delà de 3 ans, moi je serais fier et je ne vois aucun inconvénient si c'est pour redresser le Niger.
Je crois que les 3 années de transition dont il a parlé, moi personnellement, je trouve que c'est très peu. C'est très peu pour vraiment redresser, remettre le pays sur les rails comme nous le voulons. Je pense que 3 ans de transition, c'est très peu.
Pour l'analyste Ibrahim Hamidou, il revient aux acteurs du dialogue convoqué par la junte de déterminer la durée de la transition.
Le délai doit normalement être en adéquation avec les tâches à exécuter. Aujourd'hui, on a parlé de questions de sécurité. On a parlé de questions de bonne gouvernance. On a parlé même de la question essentielle de souveraineté et d'indépendance. Est-ce que vous estimez qu'en 3 ans, on peut régler tout ça? Maintenant, c'est au peuple d'apprécier. Le président Tchiani, lui, il a dit qu'il souhaite que ça ne dépasse pas 3 ans. Mais si le peuple veut 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est obligé de se soumettre à cette volonté.
Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Située à 100 de kilomètres au nord de Dakar, la localité de Fass Boy est devenue un point de départ de migrants clandestins. Récemment, plusieurs pirogues ont pris départ depuis ces côtes, dont une embarcation partie le 10 juillet avec plus d'une 100 de personnes à bord et qui a été retrouvée au large des îles du Cap-Vert avec 38 survivants. À Fass Boy, la détresse est immense, comme le dit notre envoyé spécial sur place, Sedina Abagué.
Des pirogues à quai, des pêcheurs abattus, une communauté en détresse et des familles endeuillées. À Fass Boy, la tristesse est immense suite au décès d'une 100 de jeunes partis à la conquête de l'Europe à bord d'une pirogue. Ici, l'immigration clandestine a viré en catastrophe humanitaire et communautaire. Modou Boy est parent d'une des victimes.
Les jeunes vont pêcher en haute mer pendant des semaines, voire des mois, et au retour, ils ne peuvent même pas avoir 100 000 francs chacun. C'est frustrant pour un jeune car c'est avec cet argent de la pêche qu'ils entretiennent toute la famille. Cette situation handicapante les a poussés à faire un bloc pour partir ensemble vers l'Espagne, avec l'espoir d'une vie meilleure et des revenus conséquents pour aider leur famille et leurs vieux parents que nous sommes. Ils étaient juste partis pour gagner leur vie à la sueur de leur front. Malheureusement, pour la majorité d'entre eux, Dieu a décidé que leur chemin sur cette terre devait s'arrêter à jamais. Les plus chanceux ont survécu.
En plus de cette détresse, les familles des victimes mènent une bataille de chiffres avec l'État pour que leurs enfants ne tombent pas dans l'oubli. Pour les parents, il est important que chaque victime soit prise en compte, car chacun d'entre eux était un membre important d'une famille qui porte actuellement le deuil. Moda Samb est parent de victimes et adjoint au maire de Daru Khoudous.
Dans le communiqué de l'État, nous avons vu ça en personne, mais aussi nous avions pris les nouvelles à partir des parents des enfants qui étaient dans la pirogue. C'est eux qui assistaient au départ, ou bien c'est eux qui connaissaient le nombre exact qui était dans la pirogue. Et nous avaient dit que la pirogue avait à son bord 147 personnes. Et jusqu'à présent, ils insistent sur les 147 personnes. Ils disent que la pirogue avait à son bord 147 personnes. Seulement dans la pirogue, là, les 90% sont, ou bien les 95% sont de la locale de Fasboy. Mais il y a des gens une personne qui vient peut-être de Touba, d'autres qui viennent de Dakar. Il y a même un Guinéen.
Malgré ce drame, les jeunes de la localité estiment que c'est un fait justifié car la mer ne nourrit plus son homme. Certains d'entre eux estiment que c'est une question de dignité. Modou Mbaye a perdu certains de ses amis dans le drame.
Souvent, quand un jeune rejoint l'Espagne via les pirogues et commence à travailler là-bas, il arrive à faire des investissements au bout de 2 ou 3 ans, à construire une maison, alors que ses amis qu'il a laissés ici peinent à survivre car la mer n'a plus de ressources. De là naît un sentiment d'impuissance qui est accentué par la pression sociale et le manque de solutions viables avec une mer qui ne nourrit plus son homme. Autant de choses qui poussent les jeunes à tenter l'aventure malgré les nombreux risques.
En quelques semaines, près d'un millier de jeunes a quitté la localité de Fasboy pour rejoindre l'Occident via la mer. D'après des sources locales, 500 jeunes sont arrivés en Espagne, 200 sont toujours bloqués au Maroc et les 150 qui ont déjà quitté la localité ont vu leur pirogue dériver et chavirer au large du Cap-Vert. Parmi ces 150 qui constituent le dernier départ connu, la majorité a péri. Seydina Bagay pour VOA Afrique à Fasboy.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Autre lieu, autre drame, au Togo, plus de 3000 accidents de circulation ont occasionné 282 décès au premier semestre cette année. Selon la police, 69% des décès sont imputés aux engins à deux roues. Les principales causes sont le non-respect des feux tricolores et l'absence du port de casque. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a décidé de sévir, mais pour le moment, il procède à une sensibilisation des usagers des motos. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosu.
Au feu tricolore en face du siège de la Fédération togolaise de football dans le quartier de Kégué à Lomé, les agents de la police s'activent dans la sensibilisation sur l'importance du port de casque, surtout des passagers des taxis-motos.
Le passager qui est en groupe quand une moto est impliquée dans l'accident, il n'est pas exempté. Et comme tel, les chocs que le pilote pourrait avoir, lui non plus n'est pas exempté. Donc, pourquoi ne pas porter le casque comme le pilote pour se protéger contre les chocs?
Adjo Mawena, prise en flagrant délit sur une moto, apprécie cette opération.
Il est en train de nous sensibiliser par rapport au port des casques. À part les conducteurs, il faut que nous aussi on puisse porter les casques pour nous-mêmes, notre propre bien et sauver nos vies. C'est une bonne initiative que le gouvernement togolais a pris et j'espère juste que nous aussi, les citoyens togolais, on puisse tous mettre ça en pratique.
Prosper Pierre, conducteur de taxi-moto, espère que la police tiendra parole et passera à la répression de ceux qui ne porteront pas le casque. Nous avons l'habitude de ce genre de choses de la part de la police. Elle fait des opérations coup de poing et après, plus rien. Par exemple, il y a de cela quelques années, ils avaient déjà évoqué ce problème de port de casque pour les passagers des taxis-motos et les autres personnes qu'on remorque. Mais ils n'ont rien fait jusqu'à présent. J'espère que cette fois-ci, ils vont sanctionner les gens. Pour que le port de casque rentre dans les habitudes des Togolais et pour permettre à chacun d'en disposer, Foli Koutoukli, membre d'une association de sensibilisation sur la sécurité routière, fait des propositions.
Si on peut mettre en place des mesures pour qu'à l'achat d'une moto, au lieu d'un casque, on puisse ajouter un autre casque, ça serait bien. Et aussi pour faciliter le quotidien à la population, pourquoi pas voir au niveau des vendeurs, des boutiques qui vendent des casques, essayer de réduire les taxes pour que les prix soient tellement réduits, pour que chacun puisse avoir son casque et circuler librement avec.
La police rappelle que cette phase de sensibilisation fera bientôt place à celle de la sanction des récalcitrants.
Nous faisons un effort pour les amener à comprendre le pourquoi le port de casque du passager est important. Nous avons un temps pour sensibiliser. Quand nous allons nous rendre compte que la majorité des usagers de la route sont sensibilisés, donc nous ferons face à ceux qui sont récalcitrants.
Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Allons tout à côté au Bénin où le nombre de femmes qui troquent la promesse d'une carrière contre l'entrepreneuriat force l'admiration. C'est le cas de Marlène Grasse Nitungbe qui a délaissé les honneurs d'une vie de diplomate pour se lancer dans l'agriculture. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé, est allée à sa découverte. Son portrait.
L'avenir, c'est la terre, pourrait-on dire, devant la ténacité de la jeune diplomate béninoise Marlène Nitungbe, devenue depuis plus de 5 ans une référence dans le monde agricole. Le déclic et la passion pour l'environnement et l'agroécologie sont nés dans une petite ferme au Québec lors d'une expérience de volontariat en environnement et développement communautaire.
Je suis très sensible à tout ce qui concerne l'environnement, la protection de la nature en elle-même. Donc, c'est ça qui est explique le fait que je me suis réorientée après mes études en diplomatie pour commencer à valoriser la terre. Tout s'imbrique de nos jours.
Derrière sa voix cristalline et hésitante se cache une volonté à toute épreuve. D'ailleurs, ce fut difficile pour la jeune femme d'imposer ses nouveaux rêves à ses proches.
Je dois avouer que ma migration de la diplomatie à l'agriculture n'a pas été facile. Il a fallu faire face à beaucoup d'obstacles, relever beaucoup de défis. C'était pas évident. Genre, personne ne comprenait pourquoi ce choix. Il a fallu convaincre par des mots aussi, mais surtout par de la détermination, y aller, agir, ne pas seulement être en train de parler, parce que je me suis rendu compte que, à force d'être en train de parler, d'attendre l'approbation, je n'y serais jamais allée.
Être aujourd'hui la patronne d'une ferme maraîchère afin de contribuer à la lutte contre la dégradation de l'environnement a demandé bien d'investissements, tant financiers, physique et intellectuelle.
C'est vrai que je m'étais essayé un peu à la permaculture, mais sous d'autres cieux. Mais c'était pas du tout adapté au contexte béninois. Donc, il a fallu que je suive une autre formation pratique.
Pour le père de Malène, la nouvelle passion de sa fille a été difficile à avaler. Il se faisait déjà une idée de tout ce que sa fille pourrait accomplir avec les diplômes décrochés. Mais au fil des défis relevés par cette dernière, Thiria Kinyitumbe ne pouvait qu'être fière de sa fille.
Ça n'a pas été facile, puisque même je n'avais pas prédit un tel sort, notre fille, hein, parce qu'elle a été brillante pendant les études, elle a ses diplômes, et la situation a fait que, bon, elle a choisi d'être entrepreneur agricole. On a essayé de l'en dissuader, mais pour cette détermination, il a été obligé de me résigner.
Dans son parcours, Malène a eu de nombreuses sources de motivation et d'inspiration, mais celle qui forge davantage sa passion pour pour l'environnement et le prix Nobel de la paix 2004, Wangari Maathai. Pour la jeune femme, il n'y a pas d'échec, mais de petites victoires qui prouvent qu'elle est sur le bon chemin.
Aujourd'hui, je travaille dans un cadre où je peux exprimer mes idées librement, faire travailler mon imagination. J'ai des collaborateurs autour de moi que j'embarque dans l'aventure et tout ça. Et je suis assez fière d'avoir pu créer du travail pour moi-même et aussi pour les jeunes avec lesquels je travaille. On a grandi progressivement.
Des jeunes femmes avec un background universitaire assez élogieux, mais qui ont préféré s'investir dans l'auto-entrepreneuriat, le Bénin en regorge. Elles ont vite compris qu'elles peuvent contribuer au développement en créant de l'emploi pour leur père. De Cotonou, Ginette Fleur Dandé pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction, présentation John Linden, Lionel Gaïma était à la production, Djoumbé Hamza était à la console. Merci à vous d'avoir suivi et restez connectés sur notre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube pour plus d'infos 24 heures sur 24.